A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
Elle a de la personnalité, c'est même une grande gueule, complètement branchée sur le bon goût. Et quand elle aime, il paraît qu'elle ne compte pas ni ses heures, ni ses agios sur son compte en banque. Je vous présente une frimousse de pépette, Anna Alix Kofi, franco-ivoirienne tombée dans le chaudron de l'art contemporain africain, presque par hasard. D'abord fondatrice de Off the Wall, une revue consacrée à la photographie, la voilà qui chevauche à la tête de la meilleure revue d'art contemporain africain en France. Son nom, Something We Africans Got, avec un slogan à la clé que vous êtes prié de faire passer, s'il vous plaît. Cette revue, c'est l'Afrique par ceux qui savent, pour ceux qui ne savent pas. Autrement dit, cette frimousse de pépette a le bon petit projet de coloniser là où la représentation africaine n'existe pas. Bonjour Anna Alix Kofi.
Bonjour Yasmine.
Je vous appelais Alix.
Alix, comme à la maison. Comme à la maison.
C'est quoi votre tout dernier coup de cœur dans l'art contemporain africain?
Ouh là là, la dernière grande, c'était la Biennale de Dakar. Écoutez,
allez-y,
noms qui me viennent.
Allez-y,
là,
tranquille, vous parlez à une inculte. Hein,
d'accord,
la matière,
ok. Oui. Bon, bah, alors il y a cet artiste, je ne sais pas si j'ai envie de dire, il fait de la peinture, il s'exprime par plusieurs médiums. Omram Tacheda, aussi connu sous le nom de Joël Yonke, qui est à la galerie, je ne sais plus quelle galerie d'ailleurs. Je suis assez troublée d'être là, très contente d'être sur RFI, la radio de mon enfance, la radio de ma maman et de ma famille en Côte d'Ivoire. Non, art contemporain, oui, non, mais c'est dense, je ne peux pas vous dire de nom là.
Écoutez, vous réfléchissez.
Je réfléchis, ça va venir.
On s'en reparle.
On s'en reparle.
Alors, je sais que votre totem en la matière, c'est Revue Noire.
Oui.
Créé notamment par un certain Simon Djami, qui a été un de nos invités en sol majeur d'ailleurs. Mais peut-être que le tabou en la matière, il est à rechercher du côté de la Revue Nègre, souvenez-vous.
Arcom, arrêt sur image.
Ouais, cette histoire se déroule dans le Paris gominé des années 20, le jazz ayant montré son museau, avec dans les cartons le jazz New Orleans et le jazz de Duke Ellington. Paname est pris soudain de négrophilie, au point d'imaginer dans les ors du théâtre des Champs-Élysées une revue nègre avec un jazz band et tout plein de musiciens noirs, tout plein de Sidney Bechet et une petite choriste qui danse seins nus. Paris ose Joséphine Baker, qui elle-même ne dit pas non à Princesse Tam Tam, film de 1935 dans lequel elle joue devinez quoi.
Ah, cette musique! Mais comment pouvez-vous résister? Et dansez, voyons! Vous savez bien comme l'autre soir! Dansez! Et dansez donc, voyons!
Une danseuse vaguement tunisienne, voilà ce qu'elle joue. Une danseuse qui, lorsqu'elle boit beaucoup de champagne, ne peut résister à l'appel du loup, l'appel du tam-tam sauvage et de la danse qui va avec. Et que je t'enlève la robe longue toute pailletée, et que je te jette à la figure du queue de pie là-bas, mais au talon, et que je te descende l'escalier pieds nus pour rejoindre la scène et y faire, attention pléonasme, un numéro de négresse endiablée. Anna Alix Kofi, vous voyez, je vous rappelle déjà Anna Alix, Alix, on va dire. Est-ce qu'avant de lancer votre propre revue, vous vous êtes intéressée à l'histoire de la revue nègre ou de l'art nègre?
Non, très honnêtement, non. Mm-hmm. Avant la revue, avant Something We Africans Got, c'était une revue de photos. La photo est arrivée pendant que je faisais mon mémoire de maîtrise.
Mais tout ça, Joséphine Baker, toute cette histoire-là du Paris qui accueille effectivement les Noirs via le jazz, etc.
Toujours... Non, je regardais quand il y avait quelque chose, un documentaire ou un film, je regardais toujours plus que Joséphine Baker a une vie assez passionnante et que je sais qu'à cette époque, c'était pas facile pour une femme noire en France. On avait encore, c'était les stéréotypes, soit c'était le bon sauvage, soit c'était la bonne négresse qui savait danser, qui savait faire de l'entertainment. Il n'y avait pas beaucoup d'options entre Sarge Bartman et Joséphine Baker.
Mais tout devient sérieux pour vous avec ce mémoire sur l'image de la femme en Côte d'Ivoire à travers la publicité entre 1956 et 1978.
Oui, la publicité, c'est l'image rêvée. C'est ce que ludique de la société. Est-ce qu'elle va le suivre, est-ce qu'elle va pas le suivre? Donc j'en regardais beaucoup, les cheveux lisses, pas beaucoup de port de pagne, plutôt des tenues européennes, pas beaucoup de femmes noires, mais ou alors dans sa cuisine avec du magie. Et c'était plutôt justement des blondes dans les publicités pour donner envie. on s'adressait aux personnes qui avaient le pouvoir d'achat. Donc le pouvoir d'achat, c'était les anciens colons qui étaient là. Donc on fallait leur parler, il fallait que ça leur ressemble. Et puis on s'intéressait aussi aux lettrés et à la bourgeoisie. La bourgeoisie aspirait plutôt à pas être blonde peut-être, mais à tout ce qui était un peu plus européen, moins africain, disons.
Le mythe de la blancheur quand même.
Le mythe de la blancheur. Après, il y a quand même des résistances. Et puis s'adressait, enfin, c'était quand même assez africain, assez ivoirien dans tout ce que j'ai vu. Bon, j'ai pu aussi parcourir beaucoup de vogues de cette époque-là, parce qu'il y avait énormément de connexions entre la Côte d'Ivoire et la France.
Donc Vogue, la revue.
La revue Vogue, Vogue Paris. À l'époque, à la fin de Vogue Paris, vous aviez L'Œil de Vogue, donc, qui parle des événements qui se passaient à l'Hôtel Ivoire. À l'époque.
Rappelez-nous, c'est quoi l'Hôtel Ivoire?
L'Hôtel Ivoire, parlant en ivoirienne, c'est le grand hôtel bâti dans les années 70 à Abidjan et qui accueillait toute la jet set de l'époque où il se passait les plus belles choses. Enfin, Abidjan, à cette époque-là, 56-78, une période de boom économique, juste un peu avant l'indépendance et dans les années où la Côte d'Ivoire était la petite Suisse de l'Afrique avant qu'il y ait la première crise. Donc c'était vraiment intéressant du point de vue de publicité parce que c'était une espèce de pic de consommation et où tout allait bien.
En tout cas, ce mémoire, de quelle manière est-ce qu'il a eu un impact? Est-ce que c'est ce mémoire qui vous a ouvert, Alix Koffi, sur l'art contemporain africain?
Alors sur la photo, parce que la photo me plaisait déjà, mais me plaisait comme on peut aimer. Moi, je savais que si je voyais un livre de photos, je pouvais l'acheter. Ça aiguisait mon œil parce que passer un an à feuilleter des revues, à regarder les images, entre la bibliothèque Fornay à Paris, qui est une bibliothèque spécialisée, et les sous-sols de la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, j'ai pu parcourir beaucoup d'archives. Et en fait, mes yeux tombaient sur certains photographes et j'arrivais à les repérer.
Alors l'un des premiers à vous avoir kidnappé l'œil, ce n'est autre qu'un voyeur doublé d'un daltonien. Vous voyez de qui je parle? Non, pas encore.
Moi, je sais lequel a happé mon œil.
Il faisait profession de photographe, évidemment. Non, Helmut Newton, qui a photographié toutes les Catherine Deneuve et toutes les Grace Jones du monde en femme fantasme. Voilà ce qu'il disait au micro de Bernard Pivot en 1979.
Je suis élevé dans une grande ville. Et pour moi, faire mon métier, mes photos, j'ai besoin des grandes villes. Une ville, c'est très comme une femme. Je ne peux pas faire des photos d'architecture, ça ne m'intéresse pas beaucoup. L'architecture avec une femme, ça marche très bien. Je fais une mise en scène, mais il y a toujours une base de vérité. Parce que, tout le monde a des fantasmes.
Zoom en sol majeur et sur RFI, sur Helmut Newton et son amour des femmes. Alix Koffi, quel est le cliché que vous avez en tête quand vous pensez Helmut Newton?
La rue Audriot, dans le 7e, c'est une femme en costume, il me semble, Saint-Laurent, parce qu'il travaille beaucoup avec Yves Saint-Laurent.
Que vous adorez.
Que j'adore, là de tout, comme créateur, c'est le créateur absolu, mais ne me lancez pas là-dessus parce qu'on va faire toute l'émission. Et donc, il y a deux femmes, une avec les cheveux tirés, un peu justement à la mode années 40, et une autre nue à côté d'elle.
Il y a ces femmes qui ont la cigarette au bec et en jartel, des femmes sur talons aiguilles mais seins nus, des femmes androgynes donc qui s'embrassent. Tout ça, ce ne sont pas des images pour vous qui font de la femme une femme objet?
Non, je pense que c'est elle est aux commandes. La femme Newton est aux commandes, et comme la femme Saint-Laurent. Et quand vous voyez les pubs, c'est pour ça que les deux ensemble, c'était extraordinaire. Il y a cette pub que j'ai postée il n'y a pas très longtemps à Paris, elles sont toutes en costume Saint-Laurent, elles sont toutes blanches, elles produisent le mannequin noir qui regarde avec la tête fière, enfin comme c'était leur patronne. Mais non, pas du tout, enfin, c'est pas une femme objet pour moi.
Alors dans votre sac à main, on trouve quelqu'un d'autre qui est aux antipodes d'ailleurs des mises en scène ultra sophistiquées de Newton, c'est le fameux Malik Sidibé, surnommé l'œil de Bamako, où il ouvre son fameux studio en 1958. Sa voix est là et c'est un document de la marche du monde.
Moi, je vivais avec ces jeunes. Comme dit, j'étais le plus jeune photographe en ce moment. Et ces jeunes aussi me faisaient savourer le goût même de la jeunesse et de la vie. Malgré que je n'ai jamais dansé. Je n'ai jamais dansé, mais quand je les voyais danser, c'est comme si j'étais sur scène. En Paris, s'il y a une mode ou quelque chose qui sort à Paris, dans un mois déjà, c'est presque en Afrique. Ouais. Alors je suis tombé sur ce temps où les jeunes encore en plus, parce que dans nos tam-tams traditionnels ou dans nos balafons traditionnels, il n'y avait pas de contact entre le jeune homme et la jeune fille. Les jeunes profitent de toutes les occasions pour organiser une soirée et pour pouvoir toucher leur bien-aimé, quoi. Hein? Ou bien faire des fréquentations, ou bien des conquêtes. Si ça leur permet aussi de faire les conquêtes. Tout était au profit de la jeunesse.
Aïk Kofi, ça vous fait quoi d'entendre la voix de Malick Sidi Bey sur RFI?
Ça me touche beaucoup parce que j'ai eu la chance de l'interviewer en 2011 à ma première rencontre de Bamako. C'était le lendemain de sa décoration. Je crois qu'il était fait chevalier des arts et des lettres par Frédéric Mitterrand qui était venu à Bamako.
L'ancien ministre de la Culture.
L'ancien ministre de la Culture. Et je suis allée pas dans son studio, mais chez lui, carrément, à côté de ses archives. Et on a passé un après-midi ensemble. Il m'a raconté plein de choses comme ça. J'étais comme une petite fille écoutant son grand-père. C'était un moment incroyable. Et il avait sorti cette phrase c'est plus la ruée vers l'or, c'est la ruée vers l'art. En parlant de l'Afrique.
C'est joli.
C'est très joli. Et cette phrase, je l'avais mise dans les rencontres d'Arles, ouais, où je terminais mon 10e volume de Off the Wall. Et j'avais mis ça sur les petites voitures qui vous accompagnent partout. Et il y avait la voix de Malick qui sillonnait les rues d'Arles.
Mais on vient de l'entendre, on peut imaginer l'aiguille se posant sur un disque des Chats Sauvages ou d'un Johnny Hallyday. La scène se passe, par exemple, au Happy Club de Bamako. Et là, notre Sidi Bey, avec son Kodak, a photographié les corps des jeunes Maliens ou des jeunes Africains en train de défier le twist et le rock de l'époque. Mais je me demande, quel effet vous font ces photographies en noir et blanc à vous, la trentenaire de Paname?
Moi, j'adore le noir et blanc. Si je pouvais faire que du noir et blanc, enfin, toutes mes couvertures sont en noir et blanc depuis le départ. La fascination du noir et blanc, le noir et blanc, il m'en parle. Non, moi, le noir et blanc. Si je pouvais faire que du noir et blanc, je ferais que du noir et blanc.
Donc, c'est le noir et blanc, la force de Malick Sidi Bey.
Voilà.
Mais encore.
Mais non, mais les poses, et puis il nous rapporte dans une époque. C'est complètement un cliché de l'époque. On voit les gens danser, on voit la modernité absolue pour ceux qui n'ont jamais voyagé. Et je peux vous dire qu'ils sont nombreux et qui s'imaginent qu'à Bamako, dans les années 50, on était en train de piler du sorgho dans les villages et qui voient les clichés de Malick Sidi Bey, ils sont bluffés.
Bref, c'est donc en découvrant ces grands photographes blancs et africains que vous décidez, Alix, de lancer votre première revue en 2013. Ça s'appelle Off the Wall. C'est un certain 27 avril 2013. C'est important.
C'est très important comme date, ce 27 avril.
C'est très perso aussi.
C'est très perso.
Quel était le but et surtout l'identité de cette revue?
Alors l'identité, c'était révéler les photographies émergentes et réveiller les images anciennes. C'est-à-dire que c'est mélanger de très jeunes photographes, parfois jamais publiés, avec des archives de photographes connus. Pour moi, c'est important de promouvoir la jeune photographie ou les jeunes artistes en général maintenant, de pas attendre, enfin de se faire confiance, alors pas attendre qu'ils aient été validés par d'autres avant de dire oui, celui-ci, je vais le publier.
D'où, dans votre en sol majeur, la présence de chaussettes argentées très visibles sur la fameuse pochette de l'album Off the Wall, signé Michael Jackson.
Oui.
Ceci expliquant cela,
quand j'ai décidé de faire cette revue, je travaillais déjà pour une autre revue qui s'appelle la revue Mort, M-O-R-E en anglais plus, qui m'a permis de cristalliser tout ce que j'avais fait avant et qui l'a tourné vers la photographie, qui l'a tourné vers l'édition surtout, le fait de publier. Donc j'ai pris le virus là-bas avec Nicolas Lévy et Pierre Monori. Donc j'ai lancé cette revue en 2013. Pourquoi Off the Wall? C'est le nom qui m'est venu au moment où j'ai dit que j'allais faire une revue. C'est-à-dire que j'ai dit que je me fais une revue. 5 minutes plus tard, le nom arrive. C'est pas que j'écoutais l'album tout le temps, c'est pas que la chanson passait à la radio. Off the Wall. Bon, je suis jamais
au pied du mur, j'ai envie de dire.
Au pied du mur, voilà, au-delà du mur, Off the Wall. Et on m'a dit récemment qu'Off the Wall, ça voulait dire fou aussi en plus. Alors ça, c'est bon, voilà. Et quand vous écoutez après les paroles de la chanson, et pour moi, c'est le meilleur album de Michael Jackson, le meilleur cru pour la meilleure année du monde, 79.
On suit Michael Jackson qui sera visité en sol majeur dans 2 minutes par l'esprit araignée d'une certaine Louise Bourgeois. With the party.
Cette femme maison, ici, représente une femme inconsciente d'elle-même, puisqu'elle est toute nue, elle ne le sait pas. Elle est partie dans un pays où elle a besoin de reconstituer et de collectionner et de serrer de près d'elle une maison vide. Alors cette petite main qui est comme ça veut dire « Venez à mon secours, je souffre dans cette situation ». Parce que j'ai le mal du pays. Ça, c'est évidemment une maison tragique, parce que c'est pas éclairé, on sait pas ce qui se passe, la porte est très noire. Et puis alors, cette femme, regardez ses jambes. Cette femme est inconsciente d'elle-même. C'est évidemment quelqu'un de très érotique qui ne sait pas qu'il est érotique. Oh, ça va mal. Et alors, qui dit, venez, venez me chercher et venez me rescaper de l'éroticisme. Voilà, c'est ça mon interprétation.
Et ça se passe sur RFI pour un sol majeur. Cette voix sèche donc est précise, hein. Elle appartient à une plasticienne exceptionnelle, une certaine Louise Bourgeois. C'est une Française qui a vécu pratiquement toute sa vie à New York et qui a produit des œuvres monumentales et puis surtout un univers très inspiré du subconscient. On la classe, je donne 2-3 clés quand même, dans l'expressionnisme abstrait. Alors, je ne sais pas si... Vous avez sa femme maison en tête, Alix Coffey. Des femmes maison, bon, elle entremêle un peu l'architecture au corps féminin. Mais si on vous demande vraiment quel a été votre premier grand choc dans l'art contemporain, vous répondez Cash, Louise Bourgeois.
Louise Bourgeois. Pendant très longtemps, l'art contemporain, pour moi, c'était cette boutade de l'art contemporain. Parfois aussi, je me promène encore à la FIAC et je me dis, oulala. Mais c'est parce que j'ai pas les clés, étant donné que je suis autodidacte dans tout ce que je fais, enfin en tout cas dans la photo, dans l'art. Et je suis convaincue que si j'avais certains codes, je saurais voir qui fait du bullshit et qui fait des choses qui valent la peine. Après, l'art, c'est aussi, il faut pas que ça laisse indifférent. Ça vous bouleverse ou ça vous révulse ou ça résonne. C'est la création de quelqu'un offerte au monde. Donc, il faut que ça fasse quelque chose. Louise Bourgeois, découverte l'histoire de cette femme qui était très âgée, cette histoire, ce rapport au père, la place de la femme dans sa création, cette femme maison, c'est absolument ce que je pense.
Vous arriveriez à nous donner l'image ?
À l'image...
C'est presque du Lewis Carroll.
C'est presque du Lewis Carroll. Moi, en fait, l'image qui me vient, pour moi, c'est la grande araignée, pour moi, de Louise Bourgeois, sous laquelle on peut passer, cette araignée terrifiante qui me terrifie, 2 mètres de haut. Je peux pas disserter parce qu'encore une fois, je reste assez humble parce que j'ai pas les mots. Moi, c'est vraiment du ressenti.
Mais justement,
que ça évoque.
Est-ce que cet intérêt, cette sensibilité qui est la vôtre, vous a pas donné envie de faire une école d'art ?
Oui, mais il faudrait retourner à l'école. Est-ce que j'ai le temps ? J'ai pas le temps de dormir déjà. Donc, je vais pas y aller. Je vais pas aller pour dormir dans les cours et dire que.
Et comment on fait alors, quand même, quand on maîtrise, alors, on veut être à la tête d'une revue, quand on n'a pas les codes, etc.
Déjà pour la revue, moi, je suis l'orchestre. Et donc, dans l'orchestre, je dis à telle personne qui sait faire jouer du violoncelle de jouer du violoncelle. Je dis au pianiste, là, maintenant, tu joues. Et je dis à violoncelliste...
Et vous repérez s'il joue faux ?
Je sais, parce que comme j'ai une formation de journaliste, je sais s'il s'écrit bien ou pas. Je peux savoir aussi si c'est sincère ou qui règle ses comptes ou qui fait quoi ou qu'est-ce. J'apprends aussi à mes dépens. Mais je vais chercher les meilleurs. Donc, voilà.
B.
B comme berceau de l'humanité.
Bon alors d'accord, Alix Coffey, vous aimez pas seulement Louise Bourgeois, hein, vous citez Picasso, Warhol, Basquiat. Mais qu'est-ce qui vous a pris, j'ai envie de dire, de vous attaquer comme ça à cette montagne, l'art contemporain africain? Et surtout, deuxième question subsidiaire, après Revue Noire, cofondée par Simone Djamy, qu'est-ce que vous pouvez faire?
Il y a plein de choses à faire. La Revue Noire a été fondatrice et forte à un moment où l'art dit africain n'intéressait personne. Là, il y a eu un boom, comme moi j'ai eu cette idée, c'est que la Revue of the World était en 10 volumes, au numéro 8. Je me suis dit, ah, c'est bientôt fini, il en reste 2. Qu'est-ce que je vais faire après? Il était hors de question d'arrêter l'édition. Et ça coïncidait au moment où étaient annoncées toutes ces grandes manifestations culturelles à Paris, donc en 2017, au printemps 2017, une grande exposition à la Fondation Vuitton à Boulogne, Paris, une autre exposition à la Villette.
Donc vous sentez qu'il y a un intérêt,
voilà,
une place.
Je sens que voilà, ça sort. Il n'y a plus que le galeriste André Magnin qui a fait découvert avec Françoise Huguet Malik Sidibé, Barthélémy Togo, le plasticien camerounais, ou Pascal Martin Taillou, un autre plasticien camerounais, n'ont pas attendu ce printemps dit africain pour clore, hein. Ils sont connus depuis très longtemps et très cotés. Moi, je me suis dit, ok, donc on commence à s'y intéresser. Si c'est à Vuitton, si c'est au Galeries Lafayette, si c'est à gauche, à droite, c'est que ça y est, c'est bankable. Ce
Mais
sont pas des philanthropes.
Pourquoi vous focalisez sur l'art africain, puisque finalement, l'art en général vous intéresse?
Parce que c'est important, parce que l'art en général n'a pas besoin de moi. L'art africain a plus besoin de ma voix, je pense, parce que personne justement n'a mis autant d'argent et de moyens dans une revue que moi, ce que je fais par rapport aux moyens que j'ai, c'est-à-dire zéro. Donc je pense que j'ai la passion de le faire, tant que je l'aurai, je vais continuer, et qu'effectivement c'était le bon moment, c'était le kairos. Mm-hmm. Alors, moi j'aime à dire qu'avec cette revue Something We Africans Got, parce que d'autres existent, hein. Il y a Africada, il y avait la revue IAM. IAM, c'est Intense Art Magazine, qui se focalisait aussi sur les femmes. Moi, j'essaie d'être une porte d'entrée vers des revues de haut niveau comme NK, qui est une revue américaine qui est dirigée par Salah Assam et Okwin Wezor, qui sont américains et d'origine nigériane, et qui est assez haut niveau. Et moi, j'essaie justement de faire une revue qui soit hybride entre la revue un peu mainstream et académique. Mmh. Académique par le savoir des gens qui écrivent.
Pourquoi ce titre anglais « Something we Africans got »
Contraduira par ce que nous, Africains, avons. Alors, « Something we Africans got », le titre, le titre est venu comme ça encore. C'était aussi une évidence. L'acronyme de Something Africans Got, c'est SWAG. Mais moi, je veux pas qu'on appelle la revue comme ça.
SWAG comme stylé.
SWAG comme stylé, justement. Parce qu'il y a deux aspects, en gros, de l'Afrique, pour ceux qui ne savent pas. C'est soit on crève de faim et on nous exploite par nos dirigeants ou par d'autres dirigeants. Ou alors, on est trop stylé, on sait trop bien danser et on sait trop bien faire tout ce qui est artistique. Mais pas la haute culture, selon moi.
Every man's action. Belong to ye. Get prepared for the after to reach his destiny.
Merci Ben Harper de nous accompagner dans ce feuilleté de revue. Pourquoi penser à Ben Harper pour parler du numéro 3 de cette revue, Alix?
Parce que j'adore Ben Harper et que très souvent je l'écoutais pendant que je faisais cette revue, et que Jawork, c'est le travail de Dieu. Cette revue, c'est quelque part le travail de Dieu, vu comment je l'ai fait sortir. Le numéro 3 est resté un peu coincé dans les tuyaux.
Ah bon?
Oui, après il y a du problème de financement. Hein.
Alors, qui finance justement?
Alors, la publicité. Le mécénat, le numéro 3, j'ai eu une publicité de Chanel, un mécénat une participation de Syndicat d'Okolo, ce collectionneur congolais RDC, qui vit entre le Congo, l'Angola et le Portugal. Mais c'est compliqué, hein, parce que faut que j'aille la chercher toute seule. Je fais pas mal de choses toute seule. C'est pas une volonté d'omnipotence.
Mais vous êtes une femme orchestre et vous aimez ça apparemment.
Je sais pas si j'aime ça, mais c'est
obligé. Et vous savez comment ne pas dormir, donc ça c'est le secret. Sur la couverture de ce numéro 3, il y a un homme qui est assis.
Oui,
de dos. Avec un chapeau.
Voilà.
Ça s'appelle l'ami de Maudit, vu de dos, et c'est une photo de Malik
Sidibé. C'est un dos. Malik Sidibé m'avait dit, quand je l'avais interviewé, il aimait beaucoup les dos. C'est là où il devient artiste, parce qu'il a été grand reporter des soirées mondaines bamakoises. Mais lui, quand il travaillait, il avait envie de photographier des dos, et c'était plutôt pas commun. Donc il a fait plein de dos, et parmi ce dos, il y a ce dos au chapeau, une image très léchée qui m'évoque Joseph Beuys, avec le chapeau.
Le peintre
allemand. Et justement, ce numéro 3, c'est un numéro qui allie le Mali et l'Allemagne.
Pourquoi? Pourquoi ce parallèle?
Alors, en fait, il y a trois parties dans la revue. Il y a une première partie qui explore un thème. Là, c'était la photo avec les rencontres de Bamako. Une deuxième partie qui est un pays d'Afrique. On essaie de voir dans ce pays qui sont les forces vives au niveau de la culture et de l'art et de la pensée. Et il y a une troisième partie qui est un pays non africain et on essaie de voir quel lien culturel il entretient avec l'Afrique en entier, pas seulement un pays en particulier.
Et alors l'Allemagne et le Mali?
Non, l'Allemagne et l'Afrique. Mais dans cette couverture, c'est retrouver l'Allemagne et le Mali finalement.
Donc vous, côté Mali, donc vous venez de le dire sur l'exposition, enfin on le suppose, on le devine, sur l'exposition Mali Twist que la Fondation Cartier consacrait donc l'an dernier hein, oui. à Malick Sidibé. On n'est pas étonné sur ce choix, Alix Coffi. Ce qui est plus étrange, c'est lorsque votre œil s'arrête sur la figure du dramaturge togolais Kossi Efoui. C'est un iconoclaste qu'on aime bien d'ailleurs par ici, dans son genre. Il dit par exemple que la littérature africaine n'existe pas. Mmh. Sa présence signifie quoi dans votre vue?
Bah, parce qu'il faut parler de, ça fait partie aussi des arts en Afrique et qu'il faut justement, pourquoi cette question, pourquoi pas?
Donc vous ouvrez.
Et voilà, vous ouvrez
pédagogiquement sur l'art avec un grand A.
Avec un grand A, théâtre, danse, musique.
Alors ce Kossi Efoui suggère évidemment la question, est-ce que l'art africain, ça existe?
L'art tout court venu d'Afrique, je dirais. Mmh. Donc oui, ça existe. Justement, on est en train de se battre pour avoir une définition. Parce que les gens tiquent quand on dit artiste africain, ils veulent pas se définir comme artiste africain, ils veulent pas être enfermés dans ce carcan. Moi, je suis allée à Art Basel, qui est une grande foire d'art contemporain, si ce n'est la plus importante. C'était ma première édition, là, à Basel, en Suisse. Et il y avait une œuvre monumentale de Ibrahim Mahama, qui est un artiste ghanéen, et qui fait des œuvres monumentales avec des caisses de cireurs, et des amas, comme ça, d'objets du quotidien, et qui font une œuvre monumentale. Et quand vous arrivez dans une foire où l'argent compte, où vendre ça compte, et que vous êtes accueilli comme ça par une œuvre telle que celle-ci...
Avec des objets de récupération.
Avec des objets de récupération, mais c'est surtout le symbole. C'est une œuvre africaine qui vous accueille. Vous dites, ok, l'Afrique est là, et c'est bien que ce ne soit pas cantonné dans un carcan africain façon expo coloniale, mais que ça rentre dans un dialogue général et universel. C'est ce que j'essaie de faire avec la revue, en mêlant des points de vue de non-africains, des points de vue d'africains, et de faire intervenir aussi des artistes non-africains dans la revue pour replacer l'Afrique au milieu d'un débat culturel. My friends keep telling me that you ain't no good. Oh, 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 but they don't know that I'd leave you if I could.
Merci, Aretha, d'avoir été. Aretha Franklin jusqu'à ce 16 août 2018, on peut dire ça comme ça sur RFI, hein, Alix Coffi. Et merci de nous accompagner, Aretha, en feuilletant donc ce numéro 4 de votre revue Something We Africans Got. Pourquoi Aretha Franklin avec le numéro 4?
Parce que j'écoutais aussi. Enfin, moi, je suis assez vieux dans mes choix. Hein. Je reste pas. Je suis très moderne. Après, bon, il y a plein de.
Aretha n'est pas un choix vieux.
Non,
c'est Aretha.
C'est pour dire que les valeurs sûres. Ouais, voilà. Ouais. Et quand j'ai besoin de me concentrer, j'ai besoin de mélodies que je connais déjà et qui ouvrent mes chakras.
Ah, vous en avez, vous aussi?
Ben, je crois, comme tout le monde, au moins 7.
Vous pourriez nous décrire la couverture qu'il y a
Alors, la couverture de ce quatrième opus
de
Something
We Africans Got. Une photo célèbre.
Africans Got est une photo, effectivement, assez célèbre, tellement célèbre qu'elle a été reprise dernièrement. C'est une photo de Tuki Buki, qui est un film des années 70 du réalisateur Djibril Diop Mambéty, un réalisateur sénégalais, parti trop tôt dans les années 90, et qui raconte l'histoire d'un couple un peu marginal.
Et il fait quoi, ce couple?
Alors, ce couple est sur une moto. Il regarde vers l'horizon et cette moto est assez reconnaissable. C'est une tête de, quoi, c'est une vache ou de buffle? Enfin, il y a un animal, une bête à cornes qui est sur le guidon. Et cette photo a été reprise récemment par nos amis Beyoncé et Jay-Z. Et pourquoi cette couverture-là maintenant? Parce que moi, c'est un numéro cinéma.
Alors voilà. Voilà. Parce que tous les langages vous intéressent finalement.
Absolument. Ah oui, art avec un S.
Et donc, vous donnez la parole parce que vous êtes une autodidacte qui n'aime pas l'école. Encore que...
Ah non, j'ai pas dit que j'aimais pas l'école.
C'est vrai.
J'ai dit que j'avais pas le temps d'y aller. Non, voilà. Non, l'école, j'adore.
Mais vous nous faites retourner à l'école d'une certaine manière, puisque vous nous donnez à lire des grandes plumes,
oui,
des plumes pointues,
absolument.
La chercheuse... Alors attendez, j'ai perdu son nom. Mélissa Thakwe, c'est une chercheuse
qui chercheuse enseignante à Sciences Po et qui nous fait une masterclass de cinéma africain dans les premières pages de la revue. Je dis masterclass parce que c'est moi qui l'ai interrogée. C'est un puissant fond. Je pense qu'il y en a, plein. J'espère la faire dialoguer avec Mantia Diawara, qui est un professeur malien à l'université de New York, donc à New York, et qui enseigne le cinéma là-bas. Et d'ailleurs, c'est énorme. Mon prochain numéro, ce sera les États-Unis, le nombre de professeurs d'origine africaine qu'il y a dans les grandes universités.
Absolument.
Aux États-Unis, ça nous prouve quelque chose.
Qui
vraiment
sont mieux accueillis aux États-Unis qu'en France. On ne va pas ouvrir ce dossier, mais évidemment, vous avez l'œil là-dessus.
J'ai l'œil là-dessus. Et pour dire, je reprends absolument ce que vous venez de dire, et parce que dans ce numéro 4 dont on parle, le pays en regard de l'Afrique, c'est le Japon. Et au Japon, à l'université de Kyoto, qui est une université absolument importante, qui est le président de cette université? Usubi Sako, malien. Voilà, ça n'arrivera pas en France malheureusement, en tout cas pas maintenant.
Donc en tout cas, votre revue, c'est un cours de rattrapage en histoire,
en art, un cours accéléré. Ce sont des fiches, j'ai envie de dire. Alors c'est d'envie parce que c'est un beau design, il y a beaucoup d'images, il y a énormément de textes. La moyenne des textes, c'est 10 000 signes. C'est un incroyable travail.
Vous avez des cernes sous les yeux, mais on sait pourquoi.
Oui.
Qui achète cette revue, vous pensez? Le profil sociologique de l'acheteur potentiel?
Le collectionneur, intéressé à l'art, l'amateur de belles revues, parce que déjà on l'achète parce qu'il y a une belle plastique, et ensuite on prend un point dans la figure parce que les textes sont forts et sont implacables. L'Afrique a une pensée, et je vais la propager en français, en anglais, et je veux des points de vue anglophones et francophones, parce que l'Afrique anglophone et l'Afrique anglophone, ce n'est pas les mêmes points de vue, ça aussi c'est important. J'essaie de les traduire pour que déjà même au sein même de l'Afrique, alors c'est très ambitieux tout ce que je dis, mais si on n'est pas ambitieux, on fout rien, ou alors on sait pas la peine de faire les choses. Et donc je veux même, au sein même de l'Afrique, que les anglophones et les francophones se parlent dans cette revue.
Combien elle coûte?
Elle coûte entre 25 et 30 euros en fonction du nombre de pages, mais ça devrait coûter beaucoup plus, les amis. Hein.
Donc ça, c'est un prix d'amis. Est-ce qu'on peut acheter cette revue à Bamako, à Dakar, à Yaoundé ou à Abidjan?
Alors à Bamako, à Douala, à Abidjan. Oui, ça c'est super important. Je veux que ce soit... D'ailleurs, le prix est en CFA sur la couverture.
Combien?
25 000 CFA. Alors, mon but, c'est aussi de faire offrir par des entreprises la revue à des universités en Afrique. Donc ça, c'est facile. Une entreprise paye 100 exemplaires qu'on envoie ensuite dans les universités pour que ce soit à la portée de tous.
Ben, j'ai envie de vous dire les 5 lettres. Tradition française oblige.
Niveau de Combronne.
Est-ce qu'un Ernesto Djedje pourrait avoir sa bouille, vous pensez, dans votre revue?
Ah, mais oui, bien sûr, bien sûr. On en parle un peu dans le numéro Côte d'Ivoire, qui était le numéro 2. Ernesto Djedje, c'est cette Côte d'Ivoire dont je parlais dans mon mémoire, cette belle Côte d'Ivoire. Moi, ça me rend nostalgique. Hein. C'est ma grand-mère, c'est magnifique, Ernesto Djedje.
Ziboten abawara ba yurugwe wanwa tumure ye tumure ziboten etwa gigi ba yurugu wanwa tumure wa tumure ziboten koko zakiri kurumu wasu abere vereya wa aye ziboten ama zakiri kurumu wasu abere vereya wa aye ziboten abi yurugwe komara kura uzi sakure wana ziboten abi yurugwe buku kura uzi sakure wana ziboten
passe tranquillement sur RFI avec Ernesto Djedje dans son pas de def. Je pense qu'il aurait eu aucune chance hein, dans l'œil d'un Helmut de Newton. Oh, il était quand même plus femme.
Oui,
et
sûr.
Ça se passe en sol majeur aussi dans le feuilleté d'Anna Alix Kofi, fondatrice de la revue d'art contemporain africain Something We Africans Got. Et puis maintenant, la franco-ivoirienne va s'asseoir sur la pelouse de ces deux drapeaux, car il y a match.
d'aucuns diront que... Oui, mais vous parlez de Dieu. Les Sénégalais nous disaient depuis hier que Dieu a décidé de nous donner la Coupe des Nations cette année. C'est vrai, tout à fait. Donc, Anthony...
Nous sommes championnats de la Côte d'Ivoire et les gars de la Coupe d'Afrique des Nations.
J comme j'ai deux amours.
C'est bien ça.
Maxi Mbappé face à Vida.
Oh,
deux événements footballistiques que vous avez vécu, Alix, la CAN 92 et puis évidemment la finale de la Coupe du Monde 2018. Comment on fait pour avoir deux amours quand il y a match entre, par exemple, les éléphants et les bleus?
Mais est-ce qu'on choisit entre son père et sa mère?
The réponse.
Sérieusement, c'est ce que je fais souvent parce que... Ah, aussi, alors, bon, dans les premiers temps, je vais être pour la Côte d'Ivoire, je pense, parce que déjà, c'est un peu outsider. On a été assez loin dans les Coupes du Monde. Je me souviens du but de Drogba avec la main dans le plâtre contre... le Brésil, et je pense que de Châteaurouge, où j'habite, on a dû m'entendre à Montparnasse, tellement j'ai hurlé. Non, quand la France gagne, c'est magnifique. Moi, j'ai commencé à suivre la Coupe du Monde au moment où Kylian Mbappé nous a fait le Usain Bolt, en marquant des buts. Je sais plus quel match c'était, j'étais en train de travailler, je regardais la télé d'un œil, et quand je vois le gamin en train de courir, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et marque le but. Bon, là, j'avais plus de voix pendant une semaine. Non, mais parce que c'est beau, ça emporte, et puis voir la ferveur qu'il y avait. Moi, j'ai vu la finale avec ma petite sœur au Stade de France, juste avant le concert de Beyoncé, et c'était beau, et puis c'est beau de gagner, et c'est beau un pays qui gagne, et pour une fois on est unis, alors on se voit dans le métro et on se sourit, on est tous contents, bien sûr c'est l'opium du peuple, mais bon, allez
le problème c'est que ça dure trois jours.
Voilà, trois jours uniquement.
Comment vous définiriez votre lien à la Côte d'Ivoire où vous êtes né donc en 79, mais que vous avez quitté à 4 ans suite au décès de votre père?
Alors mon lien à la Côte d'Ivoire, c'est un lien de cœur. C'est la chaleur. J'ai les quatre premières années de ma vie qui restent jusqu'à présent les plus belles. La Côte d'Ivoire, c'est un pays dont je suis très fière pour son parcours, son histoire. Malheureusement, un peu plus chaotique depuis 2000. Mais quand même, par rapport à... Si on doit comparer au pire, on s'en est quand même plutôt bien sorti pour le moment. J'y retourne là plus régulièrement pour y travailler et je vois le progrès, notamment dans le milieu de l'art. Et enfin, même, c'est vrai que c'est très bourgeois ce que je dis, un peu ridicule, mais avoir des routes qui fonctionnent et aller en une heure à Assini quand on est à Abidjan, c'est génial. C'est aussi un indice quand on sait que les galeries ouvrent. Derrière ces galeries qui ouvrent, ça veut dire qu'il y a, et que ces routes qui fonctionnent, il y a des gens qui peuvent vivre aussi.
Est-ce que quand on sort deux secondes de votre univers de galeriste, ouais, etc., est-ce que la fille de la diaspora vivant à Paris se sent concernée par exemple par la clémence récente d'Alassane Ouattara, le président ivoirien, qui vient d'amnistier 800 personnes poursuivies ou condamnées, dont l'ex-première dame, hein, oui, Simone Gbagbo, après la crise post-électorale de 2011?
Oui, je regarde, j'ai toujours l'œil sur la Côte d'Ivoire, bien entendu. Hein, c'est impossible de faire autrement, ça m'intéresse. Et habitant à Châteaurouge, je peux vous assurer qu'il y a des manifestations tous les 10 jours de soutien à Gbagbo, assez drôle d'ailleurs, ils sont 15, mais on les entend comme s'ils étaient 100.
Vous les rejoignez ou pas?
Non, je les regarde avec un sourire en coin. Ben, ils sont là, ils parlent. Et c'est vrai que bon, je sais pas s'il faut trop parler de politique et je n'oserais pas trop y aller parce que ce que je connais, j'ai toutes les cartes en main, je ne pense pas. Mais de là où de vue de ma fenêtre, je pense qu'on peut quand même tirer le chapeau à la population parce qu'il y a eu des élections avec la moitié de la population qui a voté pour quelqu'un qui est finalement atterri à La Haye. Donc effectivement, quelque part, elle a peut-être mérité. Mais on n'a pas eu de bain de sang, on n'a pas eu de machette. Enfin, si, on a
3000 morts, hein, quand même.
Mais à l'échelle de ce dont on est capable en Afrique, malheureusement, donc à l'échelle du pire, voilà.
Est-ce que vous diriez que vous avez été élevé dans une sorte de double culture? On entend votre côté titi parisien, pratiquement. Vous êtes vraiment une vraie parisienne, Alix Coffey. Mais est-ce que vous avez des affinités, par exemple, avec les Akans et les Bété, hein, puisque la famille est issue de ces deux ethnies?
Bien sûr. Enfin, c'est... C'est comme quand on disait, quand j'ai perdu ma grand-mère, qui était une figure centrale de la famille, et quand on me disait, mais est-ce que tu étais proche d'elle? Et je répondais, est-ce que la branche est proche du tronc? Elle s'éloigne. Voilà, donc on grandit, on va un peu ailleurs, on est toujours attaché. Vous allez me voir, il n'y a même pas de question. Oui, je suis à Caen. Et par exemple, bon, on dit chauvin pour les, que c'est un mot qu'on utilise pour les Français, mais c'est un mot utilisé pour l'Ivoirien. Je pense qu'il a même été quelque part inventé pour nous. Donc un Ivoirien est un Ivoirien. On ne blague pas avec l'Ivoirien, on ne parle pas avec. Moi, quand je vais en Côte d'Ivoire et que je me fais bazarder par un taxi au bout de deux secondes parce que j'ai été trop exigeante, je sais d'où je viens. C'est-à-dire qu'il me ressemble. On se ressemble, on se connaît. Je sors excédée, mais ça me fait rire quelque part. Je dis, ah, je sais d'où je viens.
Mais est-ce que vous êtes plus à Caen? Vous savez que les Acans, on dit des Acans qui sont dans la noblesse, les Bété sont plus des jouisseurs, sont plus des danseurs. Et là, on pense à l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo.
Alors, je ne sais pas s'il dansait beaucoup, lui.
Il jouissait pas mal.
Comment dire, je suis plus à Caen que Bété. Le côté Bété, effectivement, c'est la grande gueule. Je suis bagarreuse, je suis têtue. Je suis les deux, mais je pense que la dominante, un peu plus posée.
Vous êtes fan d'un mot, le mot Panthéon, je crois, Alix Coffey. Et dans votre cas, dans votre Panthéon, y a un tas de Simone.
Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood.
Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité.
Qu'il n'y ait aucune femme au Panthéon, c'est nier ce que dans le passé les femmes ont apporté à la patrie. Mais c'est aussi presque nier ce que les femmes apportent aujourd'hui à notre pays et ce que l'on peut espérer qu'elles apporteront dans l'avenir. Pour les femmes aujourd'hui, pour les jeunes femmes, ça serait pour elles un... C'est pour qu'elles auraient l'espoir d'aller au Panthéon, c'est pas du tout le problème. Mais elles se diraient, on reconnaît notre rôle dans notre pays et ce que nous faisons.
Nina Simone, Simone de Beauvoir, Simone Veil, trois Simone en sol majeur, sinon rien dans votre Panthéon, Alix Coffey, et Simone Veil, c'est désormais pour de vrai. Trois Simone-là, c'est pas des gravures de mode, mais elles sont dans votre cœur.
Absolument. Ah, dans mon cœur, il n'y a pas essentiellement une gravure de mode. Je sais.
Pourquoi ces trois Simone-là?
Pourquoi ces trois Simone-là? Mais ce sont des femmes qui montrent la voie. Récemment, effectivement, avec l'entrée au Panthéon de Simone Veil, j'avais lu sa biographie et des documentaires sont ressortis. C'est Wonder Woman, Simone Veil, quand on regarde l'histoire. C'est incroyable. Nina Simone a, même si c'est un nom de scène, elle reste incroyable. La lutte, ce qu'elle a enduré et elle a fait avancer comme elle a pu. Simone de Beauvoir a beaucoup théorisé. Et puis, dans mon Panthéon, on peut ajouter Oprah Winfrey et quelque part Michelle Obama. J'espère qu'elle fera autre chose qu'être la femme de Barack et qu'on pourra la revoir encore. Mais oui, ce sont des femmes qui donnent à réfléchir et qui... On va à un autre niveau, voilà, on s'élève.
Est-ce que vous-même, Alix, avec cette revue d'art contemporain africain que j'ai sous les yeux, Something We Africans Got, est-ce que vous diriez que vous avez aussi un pied dans l'engagement?
Oui, c'est très engagé. J'avance pour les artistes d'Afrique, j'avance pour donner à l'Afrique une place autre dans l'imaginaire. À commencer par les Français et qui m'entourent. Moi, je côtoie des gens de tout milieu parce que j'ai un niveau de Bac+5. J'ai gardé mes copains de fac et de mon entourage et il y en a très peu qui ont l'idée de ce que c'est qu'un pays africain, qui ne savent même pas si on est 54 ou on est 55 ou si on est 10.
Donc vous avez un double combat concernant le continent, mais peut-être spécifiquement la Côte d'Ivoire, et puis un combat aussi pour la France par rapport à l'art.
Oh, j'ai tout le continent, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire, même si ça ressort en premier de... Non, c'est pour porter tout le monde. c'est faire avancer tout le monde dans cette revue. Bon, c'est très modeste, hein. Attention, 1500 exemplaires. Voilà, mais le fait qu'on en parle maintenant, c'est déjà pas mal.
Une dernière question, est-ce qu'on peut savoir dans quel univers vous vivez? À quoi ressemble le design de votre maison à vous, Alix Coffey?
Il y a des meubles des années 50, histoire de faire vraiment parisien, branché à deux balles. Il y a des meubles en bois, du vrai bois. Il y a beaucoup de mon fils dedans qui fait partie de mon univers absolument.
Des monochromes?
Non, j'ai rien au mur. Ah si, pardon. Ah si, j'ai quand même deux portraits de mon fils par Malik Sidibé.
Ah bah dites donc.
Voilà.
Et il ressemble à quoi ce portrait?
Alors j'en ai un de dos et un de face où le petit jeune homme se tient, il avait 8 ans à l'époque, il se tenait, il avait les mains et les poings sur les hanches avec le regard décidé, un peu comme sa mère.
En sol majeur, @rfi.fr.
Au générique de cet En sol majeur consacré à Anna Alix Coffey, une revue qui rend moins bête, hein, je vous le dis et je vous le répète, Something We Africans Got, c'est son nom. Est-ce que pour refermer cet En sol majeur, on pourrait rendre un véritable hommage à la reine de la soul qui a fait sa sortie le mois dernier?
On l'écoute.
On écoute Aretha Franklin?
Oui.
En sol majeur avec Facebook, Twitter et puis en podcast sur notre application Pure Radio et bien sûr derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel avec, je donne le cliché, hein, le trio Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve la semaine prochaine avec un photographe palestinien nommé Taizir Batniji. Vous connaissez?
Non, je vais découvrir.
Merci.